cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Daniel Legati.
Bonjour.
Vous êtes le nouveau directeur musical de l'Orchestre National de France et nous sommes en répétition avec vous ici à la Maison de Radio France. Vous prépariez, je crois, le concert au Théâtre des Champs-Élysées du 18 septembre, qui est le concert inaugural de votre prise en charge de cette grande phalange. Vous avez jusqu'ici un passé assez impressionnant, on ne va pas faire votre CV en... Position par position, ce serait un peu long. Qu'est-ce que signifiait pour vous l'Orchestre National de France en arrivant ici, son histoire qu'est-ce qui représentait pour vous?
Avant tout, c'est un grand honneur pour moi d'être nominé ici pour les prochains 5 ans de ma vie musicale avec un orchestre comme l'Orchestre National de France qui a un grand héritage. Et je pense que le travail que l'orchestre a fait avec le maître Mazur par les derniers 6 ans était un travail très sérieux et très bon. Et dans le premier concert que j'ai dirigé avec l'orchestre en 2005, nous avons travaillé pour notre 5 programmes et pour arriver au premier concert de cette semaine comme directeur musical. Je pense que la tradition française est très importante, mais aussi c'est très important pour un orchestre comme le National de France de jouer au niveau international le plus grand répertoire symphonique. Et l'idée de jouer un répertoire vaste, mais surtout basé sur la musique allemande, la musique autriche, comme la ligne plus importante pour la symphonie, pour l'orchestre symphonique, et aussi musique française, musique russe. Mais je suis plus intéressé à renforcer la considération internationale de l'Orchestre National de France comme un orchestre de niveau international, comme un orchestre qui peut jouer très bien Brahms, Beethoven, Schumann, Strauss, aussi combien le musicien français.
Comme Debussy, combien
Bien sûr. Mais c'est très important qu'un orchestre comme l'Orchestre de France doit être aimé par le public international comme un des grands orchestres du monde, non comme un orchestre français qui pense seulement qu'il est très, très intéressant pour écouter la musique française. C'est plutôt une question, une limitation artistique. Je suis plus intéressé à développer un autre niveau sans oublier, bien sûr, l'héritage et la sensibilité sur la musique française.
Mais quand on est directeur musical d'un grand orchestre, c'est un peu une love story qui dure plus que, une fois, ça s'étend sur plusieurs années, ça permet d'approfondir, de faire un travail évidemment qui n'est... Comment se passe justement la rencontre avec une formation que vous allez suivre durant plusieurs années à titre personnel? Est-ce que pour vous c'est une manière d'approcher votre travail différemment?
Oui, le dernier 13 ans, j'étais à Londres comme directeur musical de la Royal Philharmonic, avec des avantages et aussi des disavantages pour ça. Parce que Londres, c'est la musique en Londres, on va vivre une situation complètement différente des autres villes du monde. Il y a beaucoup de flexibilité, mais aussi la difficulté de construire des programmes de concerts en 300, parce qu'en Londres, tu dois vendre les concerts. Il y a beaucoup de compétitions. Ici, nous avons une saison avec des abonnements et la chance de penser artistiquement plus à large vue. Et nous avons notre lieu pour les répétitions et surtout un lieu pour les concerts qui est le même pour tous les concerts. C'est une nouvelle aventure pour moi, et après tous les ans que j'ai passé à Londres, c'est une respiration plus naturelle d'arriver à Paris, une ville que je ne connais pas, parce que je ne dirigeais pas en France, et c'est mon première expérience. Mais j'aime beaucoup la ville, j'aime beaucoup l'orchestre, les musiciens, les apparats. Et Radio France est un colosse qui nous avons avec nous, et il y a la chance de faire des projets absolument fantastiques avec ça.
Comment on gère justement, d'un côté, toutes ces problématiques que vous avez évoquées, notamment qu'il y avait à Londres, avec les problématiques de concerts, de concerts à vendre, etc., et les considérations esthétiques, musicales, artistiques, qui sont ce pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui. Comment, est-ce qu'il y a une balance à trouver? Est-ce que c'est un mélange? Comment ça...
Non, je pensais qu'après 13 ans, mon aventure à Londres était terminée et dans les meilleures conditions. La relation entre moi et le musicien est absolument parfaite en Londres, mais il arrivait un moment pour moi, comme musicien, que j'ai besoin de quelque chose de différent, de nouvelles opportunités, de nouvelles espaces aussi. Comme je dis, la situation en Londres, c'est bon, mais aussi difficile. Et aujourd'hui, à 47, l'Orchestre National de France, on va offrir, moi, une plus large opportunité de développer des idées artistiques. L'orchestre, c'est à un niveau très très haut, et c'est comme un contrat en femme. S'il marche, marche. S'il ne marche pas, ne marche pas. heureusement, il marchait.
Comment vous dirigez dans le monde entier? Est-ce qu'on dirige de la même manière des musiciens quand on a en face de soi des musiciens français que des musiciens italiens ou des musiciens américains? Est-ce qu'il y a des spécificités malgré tout en fonction des musiciens, des nationalités, ou ça reste la musique, un langage universel?
Je pense qu'en Europe, sans offense, mais j'aime beaucoup faire la musique en Europe, parce que je pense qu'ici nous pourrons aller dans la profondité. Nous avons la chance de faire beaucoup de répétitions. Les musiciens européens arrivent dans une culture qui sont toujours à la recherche de quelque chose. Et c'est bon. Et dans l'État uni, l'orchestre sont absolument parfaits, très vibrants. Personnellement, j'aime diriger dans l'État uni l'orchestre de Chicago, New York, Boston, comme ça. Mais je suis profondément européen. Et quand je suis ici, nous avons Temps pour la répétition. C'est un orchestre qui a 7 répétitions avant le concert. C'est un luxe. C'est une situation qui est incroyable. Aussi en Allemagne, il va à travailler avec les musiciens pour chercher quelque chose, et d'avoir le temps pour faire ça, c'est très important. La musique, c'est Interprétation, c'est le moment de le concert en vif. Si vous avez devant un orchestre français, anglais, allemand, italien, il y a différentes caractéristiques. Mais à la fin, c'est très important de créer quelque chose qui est unique à le moment de le concert, à le moment de la représentation en vif. S'il y a la chance d'avoir de bonnes idées musicales, une bonne relation avec l'orchestre, créer un event pour la soirée, c'est plus important plutôt que regarder si un orchestre a une couleur différente d'un autre. Ok, c'est bon, si vous écoutez un orchestre allemand, c'est différent d'un orchestre anglais. Mais à la fin, c'est plus important de dire quelque chose au niveau de l'interprétation.
Dans les relations avec un orchestre, avec les musiciens, est-ce que vous pensez qu'un chef d'orchestre, d'une certaine manière, doit être aussi un bon psy, un bon psychologue, good shrink? Est-ce qu'il y a une part sur une relation à long terme, comme vous avez pu l'avoir à Londres, ou pas spécialement?
Bien sûr, chef d'orchestre, c'est un leader, et doit être leader dans le cœur, pas seulement dans la tête. Parce que c'est plus difficile et plus dangereux de devenir un leader, plutôt qu'être né avec un leadership. Et s'il y a un leadership naturel, les attitudes sont toujours plus simples, plus naturelles, comme j'ai déjà dit. Mais c'est une profession très solitaire. Et je pense que les relations entre un directeur, un chef d'orchestre et les musiciens doivent être très humaines, mais aussi, dans le moment de la répétition, les musiciens d'un grand orchestre ont besoin de quelqu'un qui donne une direction et qui a un charisme, une détermination. Parce que ce n'est pas vrai que les musiciens d'orchestre n'ont pas besoin de ça. Dans le moment de la répétition, dans le moment du concert, l'orchestre devient un instrument et pas un instrument. Et on va respirer ensemble, mais avec quelqu'un qui cherche un rôle pour tout. Et c'est une profession, bien sûr, de responsabilité et où, s'il y a un problème, c'est le premier à répondre de ça. Mais je crois qu'on va vivre une profession comme ça, plus comme une profession, comme une mission. Si un chef d'orchestre naît avec ça dans le cœur et dans l'âme, il devient tout plus simple, tout plus naturel, plus sympathique. Si quelqu'un devient chef d'orchestre, la construction de la personnalité peut être plus dangereuse pour les relations entre les personnes.
Ce côté naturel, c'est quelque chose que vous aviez en vous tout petit? Est-ce que quand vous étiez un petit garçon, vous étiez sur votre lit à diriger vos jouets avec un stylo? C'est quelque chose qui...
Je ne sais pas, ça, jamais la musique... pendant mes ans d'enfant, et je me suis trouvé à diriger parce que c'était une chose qui...
Vous avez commencé par le piano, je crois, ou
piano, après composition, mais j'ai décidé de devenir chef d'orchestre à 13. Mais plus que choisir de devenir chef d'orchestre, je suivrai ce que le corps dit moi. Et c'est difficile pour moi de faire une analyse sans moi.
Cet aspect solitaire, vous avez cité, vous avez dit, c'est quelque chose d'assez solitaire, c'est en permanence, c'est cyclique, ça dépend des instants.
Est-ce que c'est solitaire, c'est comme un général d'une armée, c'est comme un chef de la politique, c'est comme une personne qui... C'est une profession qui, où il y a beaucoup de responsabilités et à un moment de prendre une décision, de prendre une roue, une adresse, on voit, croit profondément ça, on croit profondément à le talent qui la profession va demander, à la préparation musicale, qui est, c'est absolument très important. Et surtout, l'honnêteté vers le compositeur, vers le public et vers l'orchestre. On était qui n'est pas, c'est difficile de pouvoir expliquer, mais c'est quelque chose qui va beaucoup tout droit à seulement la possibilité de diriger, de commander, de conduire. C'est quelque chose plus impalpable, plus subtil.
Dans cette trajectoire un peu solitaire que vous citez, est-ce que vous avez des...
Le solitaire, non, quand je sais solitaire, c'est parce que peut-être que s'il y a des problèmes, il y a beaucoup de chances pour un chef d'orchestre d'avoir de l'alliance dans l'orchestre, de parler, de créer des clubs, des groupes, et c'est absolument une erreur. L'orchestre, c'est quelque... L'orchestre et le chef d'orchestre doit aimer, mais aussi avoir un petit peu de contraste. Contraste, pas un contraste négatif, un contraste pour arriver à créer quelque chose. Trop amour n'est pas bien. Beaucoup de respect. Je préfère le respect à l'amour sur la profession.
Est-ce que c'est pas difficile justement parce que vous avez face à vous des musiciens qui sont des gens donc qui c'est de la musique, c'est de l'art, et l'art c'est quelque chose de très sensoriel et de très...
Mais aussi quand une personne arrive, vous pouvez trouver 50% de l'orchestre qui n'aime pas l'idée musicale. Oh, 60% qui aime et va. C'est plus important d'obtenir quelque chose, c'est plus important d'obtenir que tout l'orchestre il va professionnellement à faire ça et pas être trop préoccupé pour les judices de l'orchestre. Le plus important, c'est le judice de le public. Si le public il va à jouir pour ça, c'est une bonne raison. Quand l'orchestre joue à les concerts comme à la répétition et il n'y a pas de en situation de traitement, non? Traitor. Traitement. Bien. C'est bon. Mais le chef d'orchestre, c'est difficile pour le chef d'orchestre, pour moi, de trouver un partnership. Le premier partnership, c'est le composeur. Et dans le moment de la musique, le musicien, le chef d'orchestre, doit être seulement une trait d'union entre le composeur, le pensier de le composeur et le musicien et l'audience.
Comment intervient justement dans cette relation entre le compositeur, vous et les musiciens, le travail de vos prédécesseurs, c'est-à-dire les disques que vous avez écoutés peut-être quand vous étiez plus jeune, vous écoutez encore peut-être, et, et parfois la première fois que vous avez un rapport avec une partition, avant de voir la partition, c'est parfois les enregistrements anciens, etc. Oh. Comment quelle part joue le passé de la musique enregistrée dans votre approche des certains heures?
Quand j'étais très très jeune, bien sûr, la musique enregistrée était pour moi très importante, mais j'ai eu la fortune d'être né dans une ville comme Milan, et après le conservatoire, chaque après-midi à la soir, j'étais tous les soirs à la Scala, et j'ai eu la chance d'écouter tous les plus grands solistes, les plus grands chefs d'orchestre, les plus grands chanteurs. Soir par soir, à la maison, avec la partition, on a écouté de registration de grands chefs d'orchestre de la PC et de la qualité. Aujourd'hui, pour moi, c'est un petit peu plus difficile d'écouter musique. J'aime, si je suis à la recherche de quelque chose, oui, pourquoi pas. Le besoin de manger musique, comme j'ai eu pendant mon an d'études, de formation, aujourd'hui c'est différent.
Est-ce que, donc à côté de ça, il y a effectivement le répertoire que vous jouez est assez large, vous dirigez beaucoup d'opéras, là vous allez vous diriger vers même parfois des compositeurs peut-être auxquels vous touchiez moins avant, vous avez Debussy par exemple. Est-ce que vous pensez qu'on doit tout jouer? Est-ce que non? Est-ce qu'on doit... Comment ça se passe? Et quel rapport la largeur du répertoire, est-ce qu'il doit avoir des limites? Est-ce que ça dépend des périodes, d'un tel moment de votre vie? Comment vous...
Oui, je personnellement pense que j'aime beaucoup de composeurs que j'ai vu à jouer. Des autres composeurs, je ne compris pas. Le langage, la poétique, l'esthétique, je ne touche pas ce composeur. C'est mon collègue de diriger. Et un composeur comme Debussy, j'arrivais tard à entendre à aimer sa musique. Et on va dire never say never. J'ai découvert Debussy il y a 2 ans. Mais avant ça, je n'ai pas dirigé de musique de Debussy. Je dirigeais un peu de Ravel, mais aujourd'hui, Debussy, c'est incroyable. Et on se joue à travailler sur la mer l'après-midi d'enfant avec l'Orchestre National. Enfin, c'est une grande expérience.
Est-ce que justement, il y a également, à l'inverse, des compositeurs qui étaient essentiels pour vous en début, au moment de la formation, et que finalement, vous vous éloignez progressivement?
Oui. Quand j'ai commencé à diriger à 25, 26 orchestres professionnels, j'ai commencé un mois, plus de 10, 2 ans, à conduire la musique de le 20e siècle. Compositeurs comme Bartok, Stravinsky, Prokofiev, Ravel, avec beaucoup de respect avant de conduire Beethoven, Schumann, Brahms, Mozart. Et après, je le sais que la musique classique, la période classique, est arrivée en moi, graduellement. Et j'ai dirigé mon premier cycle de symphonie de Beethoven à 42. Et j'ai dirigé aussi Brahms à 38, 39, mais non. Seulement au Mahler aussi. Et aujourd'hui, j'aime absolument beaucoup le Beethoven Symphonie, Schumann, toute la musique allemande, bien sûr. Mais c'était pour moi progressif. J'ai parti dans la musique du XXe siècle parce que c'était un petit peu plus abordable pour moi à l'âge de 25, 27, 28. Et j'apprenais beaucoup sur la technique, sur l'orchestration, sur les sons d'orchestre, sur ça. Et aussi sur la profondeur de la musique du XXe siècle, qui n'est pas seulement musique descriptive ou musique d'effet ou musique, musique de virtuosité. Il y a des compositions très très importantes pour ça. Mais le respect que j'ai eu pour les meilleurs compositeurs de la période classique emportait moi à attendre pour ça. Et quand j'ai écouté mon cœur, il dit « Ok, peut-être que tu commences à conduire un Beethoven, un Brahms, un Schumann. Mm. » J'ai fait ça.
Et les compositeurs contemporains, est-ce que
travailler
avec des compositeurs contemporains, c'est quelque chose qui vous...
J'ai travaillé dans la première année de ma profession, surtout avec la Radio Orchestre de Milan, parce qu'il y a la chance de faire des registrations pour la musique contemporaine. La dernière pièce que j'ai conduite était Notation 7 de Boulez, la dernière saison. Ah, pièce merveilleuse, très 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 intéressant, très très beau de travailler avec l'orchestre.
Je crois que avec l'Orchestre National de France, vous envisagez un festival un peu consacré à Mahler.
Oui, parce qu'il y a le 2010 et 2011, c'est de l'anniversaire. Non? Mais plus que un festival, c'est un hommage à Mahler détaché en trois grands espaces musicaux. Le premier période de la création de Mahler qui va jusqu'à la quatrième symphonie. Nous avons appelé ça Wunderhorn, avec le cycle de Lieder de Wunderhorn, la première symphonie et la quatrième symphonie. Jusqu'à la fin de la quatrième. Le deuxième, qui s'est appelé Vienna, parce que c'est les années qui Mahler passait comme directeur à l'Opéra de Vienne. Dans la cinquième symphonie, à la huitième symphonie, et les deux cycles de Lieder, Ruckert-Lieder et Kindertoten-Lieder. Et le dernier, nous avons appelé Abschied. Selon le nom de la dernière pièce de Le Chant de la Terre. Et c'est la fin de la vie de Mahler, le plus profond moment de sa création, qui va de Le Chant de la Terre à la 10e symphonie complète pour la version de Dreyfus. Et il est pensé en 2 ans et demi, non? Saison 9-10 jusqu'à la saison 11-12.
D'autres moments forts dans...
Un autre cycle de Beethoven à la fin de mon cinquième année ici. Et sur le cycle de Beethoven, je pensais une novité, pas de présenter seulement la symphonie de Beethoven, mais la symphonie de Beethoven, avec pour 5 programmes une nouvelle composition d'un compositeur français, écrit appositement pour nous et pour le cycle Beethoven. Comme une petite morceau à le milieu de le programme. Symphonie, composition moderne, une autre symphonie de Beethoven.
Très bien. Merci beaucoup, Daniele Gatti.
Je vous en prie.
Thank you.
www.marcsismans.com. Rencontre par Marc Zisman.